Des voix, des histoires, c'est la base. La base, Bruxelles nous appartient.
Bon, allez, on y va maintenant. Donc, d'abord, préciser qu'est-ce qui m'amène à vous parler ou vous présenter le quartier des Marolles, en tout cas. Donc, à la fois, c'est le hasard, mais c'est aussi surtout mon passé professionnel. Donc, puisque je suis arrivé dans le quartier ici en 1983, le quartier des Marolles, pour m'occuper de deux outils essentiels, des outils de communication, justement. C'était le journal Le Marolien Rénové. Donc, j'ai été rédacteur en chef du journal pendant 20 ans, de journal de quartier. Et puis ensuite, c'était la radio libre, Radio Marolles. Et ce sont ces éléments-là qui m'ont permis notamment d'acquérir progressivement toute une mémoire liée surtout à la façon dont les gens vivaient dans le quartier via une chronique que je gérais qui s'appelait « Gens de chez nous ». Et c'était donc interroger un petit peu le citoyen lambda pour montrer que lui aussi pouvait être un héros, quoi, hein, donc, et que son histoire était tout aussi intéressante qu'un citoyen étant en première ligne à la télévision, quoi. Donc voilà, donc, du coup, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est raconter, je dis souvent, c'est une histoire des Marolles, c'est pas l'histoire des Marolles, c'est un conglomérat comme ça d'informations que j'ai donc, comme je le disais, glané un peu partout. Et aussi par mes fonctions, parce qu'en dehors d'être donc rédacteur en chef et puis responsable de la radio libre, je suis devenu directeur de la SBL où je travaillais. Et donc j'ai aussi tout un discours autour de l'urbanisation de ce quartier, comment ça s'est produit, et aussi comment se produit dans ce quartier-ci l'organisation finalement de la lutte contre la pauvreté, puisque, je vais vous le dire tout à l'heure, près de 50% de la population n'a pas de revenus liés au travail. Alors, si on veut voir un petit peu quel est le périmètre qui définit ce quartier des Marolles, et donc c'est bien le pluriel que j'utilise, parce que le pluriel est le singulier en réalité. Et donc, pour le pluriel, donc on doit, comme on est aujourd'hui ici, démarrer au palais de justice. Donc on est devant le palais de justice, puis on gagne directement le boulevard de Waterloo. Boulevard de Waterloo qui descend jusqu'à hauteur de l'hôpital Saint-Pierre. À l'hôpital Saint-Pierre, donc on continue à descendre le boulevard qui devient le boulevard du Midi. Et on s'arrête juste avant la jonction. On ne franchit surtout pas la jonction, quoi, hein. Donc on s'arrête juste avant la jonction. On tourne à droite. On va longer cette jonction ferrée qui va nous amener notamment du côté du quartier des Brigitines, là on a les logements sociaux que l'on distingue au fond du panorama. Et puis des Brigitines, on va rejoindre l'église de la Chapelle pour nous ramener progressivement donc par le trottoir de droite de la rue Stevens et par le trottoir de gauche. Par le trottoir de droite de la rue Stevens, on va chatouiller le Sablon et puis on va rentrer par la rue des Minimes pour prendre cette rue des Minimes jusqu'à l'église du même nom et arriver à nouveau à l'endroit où nous sommes pour le moment, au palais de justice, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle les Marolles. Ça représente 52 hectares de la ville de Bruxelles. Dans ces Marolles, il faut se distinguer aussi donc, du coup, des sous-quartiers que vous connaissez probablement. Il y a la Marolle, le singulier, qu'on va découvrir aujourd'hui, qui est derrière le palais de justice. Il y a après ce qu'on appelle dans le quartier ici les nouveaux blocs, mais qui datent des années 60, en face de Saint-Pierre. Il y a les vieux blocs, qu'on appelle aujourd'hui cité Le Mans, hein, qui sont des logements sociaux datant du début du XXe siècle. Et puis, on a d'autres cités de logements sociaux qui définissent le quartier, parce que les gens se définissent beaucoup par rapport à leur cité de logements sociaux avant de dire qu'ils sont maroliens. Donc, ils sont d'abord des Brigitines, ils sont d'abord du quartier de la Querelle. Et ça, dans d'autres visites, on peut l'observer quand je fais des visites à caractère urbanistique. Pourquoi ils se définissent-ils très fort par rapport au logement social? C'est parce que ce logement social ne s'inscrit pas dans le quartier physiquement. Il y a toujours une zone intermédiaire entre les deux. Ici, on est au-dessus des Minimes, comme vous le voyez, des logements des Minimes. Eh bien, les gens habitent notamment sur l'îlot à l'arrière, quoi. Ce qui veut dire que pour être vraiment pleinement dans le quartier, il y a quelque part un effort physique à faire. Si on a une maison à front de rue, on ouvre la porte, on est dans le quartier, et donc du coup, on se sent marolien. Ici, on est d'abord des Minimes, et puis après, on va devenir marolien en faisant 100 mètres à pied, quoi. Hein? Donc voilà, ça c'est pour la présentation physique. Maintenant, qui habite dans ce quartier ? Alors, recensé à l'état civil de la ville de Bruxelles, donc inscrit au registre de population, il y a plus de 12 000 habitants. Plus de 12 000 habitants qui se répartissent notamment en termes d'origine culturelle en 113 nationalités différentes. Donc ce qui est énorme par rapport à un quartier. Alors 113 nationalités différentes, ça se présente uniquement sur les chiffres liés à ceux qui sont déclarés au registre des étrangers. Pas à ceux qui sont d'origine étrangère, mais qui ont la nationalité belge, puisque ça, c'est indéterminé dans les registres de l'état civil. Et donc, on a 113 nationalités différentes, avec comme hit-parade en tête les pays du Maghreb, et notamment le Maroc. Et puis, assez curieusement, on va retrouver les Français en deuxième position. Et puis, alors, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant aussi par rapport au quartier, qui est tout à fait nouveau aussi, c'est qu'on commence à avoir une population roumaine qui est importante dans le quartier. Et les Roumains, et notamment via les Roms, donc sont assez présents dans le quartier, même si on ne les voit pas trop physiquement, puisqu'ils ne sont pas rassemblés quelque part, mais ils sont très diffus en fait dans le quartier. Et alors, en bas de course, il y a un Zimbabwéen, il y a deux Irlandais qui ont atterri dans le quartier ici. Donc il y a vraiment toute, j'ai envie de dire, presque toute l'ONU est représentée ici dans le quartier. Maintenant, au niveau socio-économique, c'est quoi cette population? Je le disais tout à l'heure, c'est 50%, et ça c'est une constante hein, que j'observe depuis plus de 30 ans, 50% de la population du quartier n'a pas de revenus liés au travail. Donc ça veut dire que 50% de la population vit soit d'un revenu de remplacement, soit d'une absence de revenus, mais du travail au noir. Le grand pourvoyeur de main-d'œuvre au noir, c'est la place du jeu de balle. Avec le vieux marché, avec le fait qu'il y a des gens qui installent et désinstallent les étals, soit on leur demande de surveiller l'étal aussi. Donc il y a toute une série de petits métiers comme ça qui s'organisent autour de la place hein, et qui participent, donc, je le disais, de cette économie parallèle, en tout cas dans le quartier. Je dois dire aussi, quand je dis 12 000 personnes officiellement à l'état civil, on a des personnes qui ne sont pas recensées à l'état civil et qui résident dans le quartier. Et là, on ne se trompe pas en disant qu'il y a à peu près 2 000 unités en plus. Donc finalement, on a un quartier qui accueille près de 14 000 personnes ici. Alors, pourquoi cette moyenne habituelle de 50% de personnes donc, sans revenus liés au travail? On peut y lire là la présence assez importante du logement public. Le logement public va en fait garantir à une population qui est fragilisée d'avoir accès à du logement. Donc dans le logement public, on a les logements sociaux, comme on dit, donc les CISP. Hein, mais il y a aussi les logements appartenant à la régie foncière de la ville de Bruxelles et les logements appartenant au CPAS. Alors, ces logements ont un impact comment? Très clairement par rapport au logement social, parce que ça, les loyers sont calculés, comme vous le savez, sur base des revenus des gens. Par contre, pour le secteur public, donc notamment la régie foncière et le CPS, l'idée est de demander, de proposer plutôt un loyer moindre à celui qui se trouve sur le marché privé. Donc c'est finalement un loyer qui se situe entre le loyer de la société de logement social et le loyer du privé. Et on a une zone intermédiaire entre les deux, avec une espérance de ces pouvoirs publics, du coup que le privé va essayer de s'aligner sur le prix que le CPS propose ou que la régie foncière propose. Voilà. Et maintenant, alors, ceux qui travaillent, qu'est-ce qu'ils font, ceux qui travaillent? Eh bien, les universitaires, ils quittent le quartier. Ils ne restent jamais. Donc, quand dans une famille, il y a un membre de la famille qui réussit à faire des études universitaires ou des études supérieures, immanquablement, il va quitter le quartier. Donc on a des expériences comme ça, plutôt des observations, je devrais dire, comme ça, de familles notamment migrantes espagnoles, arrivées dans les années 60. Les parents sont venus s'établir ici dans le quartier, parce que c'est un quartier accueillant des populations diversifiées. Ensuite, ayant des enfants, ces enfants ont été en phase d'ascension sociale et sont allés habiter Saint-Gilles. Eux-mêmes ont eu des enfants et ces enfants sont allés habiter Uccle. Et donc on a comme ça, en termes de génération, des éloignements du cœur de la ville. Avec ces populations. Hein. Par contre, donc, du coup, reste qui dans le quartier? Ben, c'est des gens faiblement qualifiés. Les qualifications sont très faibles. Donc on a quand même un quartier, il y a plus de 25% de chômage chez les jeunes, ce qui est relativement important, quoi. Et ce sont bien des jeunes qui ont très peu de qualifications. L'accès aux écoles publiques, même celle qui est dans mon dos ici, l'Athénée Cato, n'est pas évident du tout. Alors, c'est peut-être il ne faut pas faire des raccourcis en disant que du coup c'est Cato qui ne veut pas des jeunes du quartier. Mais aussi on s'est aperçu que les jeunes n'avaient pas nécessairement les codes pour entrer dans des établissements comme celui-là. Hein? Donc un exemple rapidement fait, à l'école 715 rue Haute Baron Steins, hein, donc voilà, il y a deux gamins qui sortent de là, ils sortent de l'école, ils se battent, personne ne dit quoi que ce soit, ils sont en 6e primaire. Il n'y a personne qui réagit. Voilà, ils rentrent chez eux, ils sont très contents, ils sont foutus des nions sur la figure. Quoi. Après, ces deux gamins se retrouvent un an après à Cato. Ils sortent de Cato, ils se battent, ils se foutent des nions, ils sont appelés par le préfet de discipline, qui l'école, qui dit sanctions, n'allez pas vous battre sur la rue parce que vous montrez, en fait, vous devez porter l'image de l'école, quoi. Donc rien que des codes comme ça, fait que les types, ils restent pas, hein. Donc ils s'en courent et ils vont dans d'autres établissements, quoi, hein. Donc ça, c'est pour, en fait, donc, l'origine donc, sociodémographique. Alors je disais, et je l'ai très brièvement dit, que ce quartier est un quartier d'accueil à des populations migrantes, et aussi c'est un quartier de haute tolérance par rapport à ce qui se vit chez les gens. Hein. On dit toujours, c'est un quartier aussi où on peut, enfin, je peux sortir du bureau et commencer à crier. Il n'y a personne qui va me faire de remarques. Hein. Comme je travaille au CPS, je peux vous dire que mon vocabulaire de rue s'est étendu rien que par le fait de travailler à hauteur du 296. Donc je peux vous chanter des variations sur fils de pute si vous voulez. Donc c'est tout à fait possible. Mais donc tout ça est tolérable, quoi. Donc c'est vraiment un quartier de haute tolérance. Et pourquoi est-ce un quartier de haute tolérance? Et c'est là qu'on va interroger l'histoire, en fait. Donc il faut s'imaginer, on est ici, mais on est aussi au 12e siècle. Donc, qu'est-ce qu'il y a au XIIe siècle ici? Rien. Il n'y a rien, il y a des champs, on cultive, il y a bien un chemin sinueux qui va devenir la rue haute, mais qui rappelle, nous dit-on, le tracé d'un diverticulum, donc d'une ancienne voie romaine, hein, qui amènerait vers le centre de Bruxelles. Et Bruxelles, elle, s'est déjà un peu construite, c'est déjà devenu un bon bourg, quoi. Hein, et un bon bourg, avec un bon bourgeois, il a envie de se protéger d'une population habitant un peu à l'extérieur de son territoire, et notamment une population qui a trouvé refuge autour d'une chapelle dédiée à Notre-Dame et qui va devenir l'église de la chapelle. Et là, il y a une petite chapelle avec cinq artisans, un posier, un tisserand, un tanneur, et puis il y a ce chemin sinueux, donc je disais, où il y a des fruits et des légumes, et puis au bout, il y a les lépreux, parce que les lépreux n'ont pas accès à la ville, hein, puisque la lèpre est considérée d'abord comme une sanction divine et immédiate, t'as la lèpre, Dieu t'a puni, voilà, et donc on va te punir en plus, donc on va te fournir un habit qui va être distinguer, hein, quand tu te déplaces, on va te donner un petit tonneau pour aller chercher de l'eau, mais pas dans les mêmes fontaines que les autres, voilà, et en plus, tu vas avoir une crécelle pour annoncer que t'arrives, quoi. Parce que comme ça, on sait qu'on peut dégager quand tu arrives. Donc, c'est à peine stigmatisant. Donc, on a le lépreux qui se déplace comme ça, avec sa crécelle, le long de la rue haute, et qui va toquer à la porte de la ville pour pouvoir y entrer. Hein? Parce que, évidemment, quand je dis que le bourgeois allait se protéger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mur. Hein? Ça, c'est assez classique. Hein? Donald Trump, il fait encore un mur aujourd'hui aussi. Donc, je ne sais pas si vous savez que c'est une anecdote, mais du temps où on a construit le mur de Berlin, il y avait en fait 7 murs qui partageaient dans le monde, hein, 7 murs qui partageaient les gens. Aujourd'hui, il y en a 54. Donc, c'est pour vous dire, hein, le nombre de murs qu'on met chaque fois. Hein, et donc, ce n'est pas nouveau, puisqu'au Moyen-Âge, on s'enferme, on se met dans la ville. Et le soir venu, comme on a peur, il faut encore qu'on ferme la porte, quoi. Hein. Et il faut aussi qu'on dise aux gens qui sont rentrés dans la ville qu'ils doivent sortir. Donc le matin, qu'est-ce qui se passe? On ouvre la porte, alors tu as l'artisan qui rentre, il y a le lépreux qui rentre, et puis tout ça est suivi du pauvre type, le type qui n'a pas de sous, enfin qui n'a pas de moyens de vivre en tout cas, le pauvre, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et lui, il va aller évidemment un petit peu faire la manche dans la ville, quoi. Hein? Donc il va faire la manche dans la ville, et il faut savoir aussi qu'au Moyen-Âge, le fait d'être pauvre n'est pas quelque chose de condamnable. Le fait d'être pauvre est un état social. C'est une situation sociale que vous avez. Donc, c'est un peu comme les intouchables en Inde, quoi. Hein. Donc, on a une bourgeoisie, on a le seigneur d'abord, puis on a une bourgeoisie majoritairement urbaine, et puis on a le pauvre qui, lui, vit un peu d'expédient et vit à l'extérieur dans ce qui était les prémices de la campagne, en tout cas, ici. Et la pauvreté ne va devenir condamnable, donc c'est-à-dire que la pauvreté, normalement, on dit toujours, engendre l'oisiveté. Et tu ne peux pas condamner l'oisiveté si tu autorises le Seigneur à ne rien foutre. Hein? Si le Seigneur il ne peut rien faire, tu ne vas quand même pas dire que l'oisiveté est dégueulasse. Donc tu dois dire, oh, l'oisiveté, c'est très bien, le Seigneur, il peut être oisif, mais le pauvre aussi, il peut être oisif. Et l'organisation de la charité ne pose pas problème. D'autant plus que la charité, c'est une vertu théologale. Et c'est la seule façon que tu peux encore montrer ton amour pour Dieu en dehors d'être aux différents offices. Hein? Donc, c'est bien précis que la charité, du coup, c'est pas ton amour pour le prochain que tu montres. C'est ton amour pour Dieu. Et donc, si vous allez au musée du CPS, vous le voyez très bien, d'ailleurs, il y a des toiles où il y a les maîtres des enfants trouvés, qui donne le pain et les vêtements aux enfants et qui ne les regarde pas. Et les enfants, vous voyez, ils les regardent et ils essayent d'avoir un œil qui est compatissant et ils reçoivent juste du pain, content, sans regarder. Je vous invite à regarder cette toile, vous allez voir, c'est assez flagrant quoi, comme situation. Quoi. Et donc, quand est-ce que ça va devenir condamnable, la pauvreté? C'est au moment où les protestants vont apparaître dans la vie, quoi, je veux dire, dans notre humanité, et les protestants vont apparaître avec une relecture de la Bible, notamment, puisque vous savez que les protestants sont très attachés à faire des références bibliques. Et dans la Bible, il y a des épîtres. Et alors, il y a un épître de Saint Paul. Saint Paul, c'est le meilleur évangéliste de la terre. Hein, donc, lui, il a vraiment été dans tous les coins du monde pour aller évangéliser. Voilà. Et chaque fois qu'il allait quelque part, qu'il rencontrait une tribu, il écrivait une lettre, une épître donc. Hein. Et un jour, il rencontre des Philippéens et il voit dans les Philippéens trois types qui glandent au pied d'un arbre alors qu'il y en a trois autres qui travaillent pour les champs. Quoi. Et ça énerve Saint Paul. Enfin, il ne s'appelait pas encore Saint Paul à ce moment-là. Ça énerve Paul quoi, qui dit dans une épître, « Ouais, mais ça, je caricature un peu ici, ouais, mais ça ne va pas. » Trois types qui glandent. « Celui qui ne travaille pas, ne mange pas, écrit-il. » C'était foutu. C'est un truc qui nous guide encore aujourd'hui. On l'oublie. Hein. C'est simplement une bête phrase dans une lettre, comme si moi j'écrivais à mon fils, « Tes résultats à l'école ne sont pas bons, je te prive de Nintendo. Hein, » Et alors, du coup, ça reste. Et c'est la même chose. Et donc, on en fait tout un... Enfin, on met ça vraiment en avant, quoi, pour rendre, du coup, cette pauvreté condamnable. Et je ne sais pas si vous savez que la pauvreté a été condamnable en Belgique jusqu'en 1992. Donc, en 1992, le fait d'être pauvre t'amenait à être enfermé si on constatait que tu n'avais pas d'argent sur toi. Donc, c'était la loi sur le vagabondage, en fait. Et donc, cette loi sur le vagabondage a disparu en 1992. Avec la difficulté, c'est que c'était correct de faire disparaître cette loi sur le vagabondage, sauf qu'il n'y a pas une mesure sociale accompagnatrice par rapport à cette loi qu'on a supprimée. Donc, du coup, on a vu réapparaître les gens dans la rue. Donc, du coup, on a vu réapparaître les sans-domicile fixe, qui avaient totalement disparu du paysage fin des années 60, jusqu'à peu près, effectivement, dans les années 90. Quoi. Hein? Parce qu'on a remis tous ces gens en rue. Or, les Maroliens, ici, le savaient très bien, donc ils pouvaient être condamnables. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? À l'approche de l'hiver comme aujourd'hui, ils essayaient de se faire pincer par un flic. Il n'y avait pas de fric. Hop, 6 mois à Merckx-Place ou 6 mois à Saint-Hubert, chauffé, ça n'avait pas de problème, tu avais à bouffer et tout. Et donc, voilà quoi. Et donc, j'en reviens à mon... Donc, c'était une petite parenthèse pour un petit peu expliquer comment est-ce qu'on juge la pauvreté, quoi. Mais donc, j'en reviens à mon lépreux qui est dans la ville, à mon pauvre qui demande l'aumône et qui veut du pain et un habit, quoi, voilà. Et puis le soir venu, pour dire à ces gens qu'ils doivent dégager, on sonne une cloche. Et les portes de la ville donc, vont donc se fermer. Et à ce moment-là, quand la cloche sonne, ben, il sort évidemment le lépreux, il sort l'artisan et il sort le pauvre. Et vous trouvez là l'origine du mot clochard, qui signifie la personne pauvre qui sort au son de la cloche. En réalité. Et donc, c'est un mot qu'on utilise encore aujourd'hui pour définir des gens qui n'ont pas de ressources et qui font la manche dans le métro. Donc, ça, c'est pour un peu situer. Et donc, ce quartier, évidemment, n'est pas inclus dans les murs, puisque je viens de le dire, qu'on ouvre et qu'on ferme la porte. Et il va falloir attendre 100 ans plus tard pour que la ville de Bruxelles décide d'englober dans la ville la léproserie, hein, et ce fameux quartier des Marolles. Mais c'était fini. C'était marqué à vie, j'ai envie de dire, le quartier allait devenir un quartier d'exclusion. Hein? Et il l'est encore aujourd'hui physiquement. Quand je vous ai donné les limites du quartier, c'est un quartier dont on a difficile à physiquement s'en aller, parce qu'il y a la jonction qui va me coincer. Ici, on est coincé par le palais de justice qui va me coincer. Là en bas, je vais être coincé par le sablon ou par les boulevards. On va le sentir hein, très fort qu'on est enclavé. Quoi. C'est un quartier qui est vraiment enclavé et donc qui ne s'ouvre pas nécessairement vers l'extérieur. Donc les gens, quand ils ne savent pas survivre à l'extérieur, ben, ils ont tendance à se ravaler. Quoi. Donc après, évidemment, ben, la rue Haute va commencer à s'urbaniser tout ça. On aura un petit temps où il y aura des bourgeois qui vont habiter la rue. Et puis, progressivement, avec l'industrialisation, comme vous le voyez, ça va devenir densément peuplé. Le bourgeois qui a envie d'avoir un peu d'argent, il se penche vers l'ouvrier qui cherche du logement parce qu'il travaille vers l'industrie du côté d'Anderlecht et de Molenbeek. Et donc, on crée tout ce qui est les impasses. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les impasses portent souvent le nom du propriétaire. Hein. l'impasse Myrthe, par exemple, c'est un exemple d'impasse. Il y a l'impasse des Groseilles, mais ce n'est pas la famille Groseille. Hein. Mais donc ça existe. Et donc, il y a toutes ces impasses, et donc c'est densément peuplé. Et c'est vrai qu'au plus on va s'enfoncer à l'intérieur d'îlots, au plus on va descendre l'échelle sociale. C'est un peu, si vous voulez, toujours, c'est comme à Paris, ça c'est l'inverse. C'est au plus on va monter dans les étages, au plus on va descendre l'échelle sociale. Ici, on a couché les bâtiments en intérieur d'îlots. Et donc, au plus on va aller vers le fond, au plus on sera pauvre. Et aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et on le verra peut-être tout à l'heure. Il y a des impasses qui ont été rachetées par des propriétaires privés. Et ces impasses, du coup, sont devenues des lieux agréables à habiter. Parce que d'une maison qui accueillait 9 personnes, c'est devenu une maison qui accueille un couple, hein, avec enfants. On met un trompe-l'œil dans le fond de la cour, c'est super, quoi. Et les toilettes sont à l'intérieur, ce que ce n'était pas le cas avec une impasse, quoi. La plus grande des impasses du quartier est l'impasse des escargots qui a disparu aujourd'hui. J'ai une description des médecins des pauvres du début du XXe siècle à ce propos-là. Il y avait 300 personnes dans cette impasse. Hein. Et un WC, une latrine, quoi, qui n'était pas fermée, il y avait un rideau, juste un rideau devant. L'impasse a disparu dans les années 60. Hein. Moi, quand je suis arrivé dans le quartier en 83 ici, il y avait une impasse où il y avait encore les WC à l'extérieur. Donc, pour vous dire, quoi. Hein. Et donc... voilà donc ce quartier qui se construit densément, et puis ben voilà, et pour venir donc du coup en aide à cette population exclue, il y a plus de 122 associations et services qui sont proposés à la population. Et ça se justifie encore toujours aujourd'hui.
La base, ce sont des histoires et une cartographie de Bruxelles à écouter sur bna-bbot.be.